Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième numéro de Sans langue de bois, votre nouvelle émission politique sur les ondes de Transistor. Il y a deux semaines, nous vous proposions le premier numéro des grands formats de Sans langue de bois avec une interview sans concession de Christian Jacob, député maire de Provins, chef du groupe UMP à l'Assemblée. Cette semaine, c'est une nouvelle édition du grand journal politique de la rédaction que nous vous présentons et c'est Thomas qui vous en dévoile le programme. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous. À la une de l'actualité politique cette semaine, le rapport Jospin sur la réforme de l'État qui fait polémique, notamment à propos de la question du non-cumul des mandats, un sujet préparé par Mathilde Ferrez. L'enquête de la semaine réalisée par Colline Allier sera consacrée à l'affronte du Sénat, notamment à l'encontre de la question du non-cumul des mandats que nous évoquions à l'instant. Sénat qui vient également de retoquer deux textes présentés par le gouvernement et votés en première séance à l'Assemblée à la faveur d'un étonnant front UMP-PCF, la réforme du budget 2012-2017 et la loi Brottes sur l'énergie. Enfin et surtout, enquête exclusive qui a mobilisé toute la rédaction. Vous saurez tout sur la cravate de François Hollande. Sans oublier la chronique mensuelle de Jérôme Bastic, Vue d'Europe, et deux éditoriaux, cette semaine proposés par Amos Reichmann et Thibaut Sardier.
Et oui, politique et éthique sont deux mots qui peuvent aller de pair. L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin a remis ce vendredi 9 novembre à François Hollande 35 propositions pour rénover la vie politique française et rapprocher les citoyens de leurs élus.
Le président de la République a annoncé qu'il consulterait sur la base des 35 propositions les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que les chefs des partis politiques représentés au Parlement dans les prochaines semaines. Un projet de loi constitutionnel devrait être présenté au début de l'année prochaine.
Oui, et la mesure phare de la commission Jospin est la remise en cause du cumul des mandats. Cependant, les réflexions ne s'attachent pas seulement à rénover le statut du politique et sa gestion du pouvoir. Elles révèlent un nouvel intérêt pour le citoyen et sa représentativité.
Et Marie-Ève, chez les politiques, ça ne fait pas que des heureux. Tour de piste des propositions et des réactions.
Paul l'éthique, un sujet préparé par Mathilde Ferrez.
Avec le rapport Jospin, c'en est fini de certains privilèges donc.
Dans sa volonté de rénover la vie politique française, le rapport Jospin propose en effet des réformes qui, si elles sont acceptées, pourraient enfin changer l'image de l'élu.
En tête, l'interdiction du cumul d'un mandat de député ou de sénateur avec un mandat d'exécutif local. Ce régime s'appliquera pour les députés comme pour les sénateurs, qui pourraient toutefois détenir un mandat de conseiller municipal, communautaire, général ou régional, sans fonction exécutive.
Les ministres n'échappent pas à ce renouveau. La commission refuse tout cumul entre des fonctions ministérielles et un mandat local. En outre, avec la suppression de la Cour de justice de la République, instance habilitée à juger les crimes et délits perpétrés par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions, ils seront désormais jugés comme tout autre citoyen.
Le président de la République voit également son statut évoluer.
Comme tout justiciable, le président sera dorénavant responsable pénalement des actes accomplis avant ou en dehors de ses fonctions. De même, ce dernier ne pourra plus siéger de droit au Conseil constitutionnel.
Mais Marie-Ève, les innovations ne concernent pas seulement l'homme politique en tant qu'élu, l'homme politique en campagne également. Il devra ainsi s'aventurer sur d'autres terrains pour conquérir les fameuses signatures.
La sempiternelle course aux 500 parrainages d'élus permettant de concourir à l'élection présidentielle laissera sa place à un autre marathon, la collecte de 150 000 signatures de citoyens.
Cela évitera au Front National de brandir la théorie d'un complot fomenté par les autres partis en lice pour empêcher sa candidature. Mais c'est surtout un autre rapport entre politique et citoyens que tend à créer cette proposition de réforme.
En effet, l'obtention de signatures citoyennes ne fait plus des candidats à la présidentielle les simples jouets de négociations un peu troubles entre des professionnels de la politique. Les candidats proposés représenteront, avant le suffrage populaire, une émanation directe de l'espace citoyen collectif.
Les réformes qui touchent le statut de l'homme politique, élu ou en devenir, ont donc, on le voit, des répercussions indirectes sur la place du citoyen. Voyons maintenant les propositions qui touchent plus directement la vie du citoyen.
La mesure phare qui touche le citoyen est la révision du scrutin législatif.
Le rapport propose en effet, Marie-Ève, une élection à la proportionnelle de 58 députés sur les 577 qu'en compte actuellement l'Assemblée nationale.
Et il est intéressant, Thomas, de noter que ce projet ne tombe pas dans l'écueil d'une surreprésentation de la diversité qui mène fatalement à l'instabilité gouvernementale. Le nombre limité de députés révèle dans un premier temps la volonté de dégager une majorité claire.
En outre, si ce système voit le jour, les électeurs effectueront un double vote. Une première fois pour leurs députés, selon le scrutin uninominal à deux tours, que nous connaissons déjà. Une seconde fois pour une liste nationale liée à une formation politique. C'est à partir de cette liste nationale que se déduit le résultat de la proportionnelle. Selon les votes obtenus sur cette liste, les sièges se distribuent entre tous les partis.
Cette vision du mode de scrutin proportionnel paraît relativement équilibrée. Par le double vote, il permet d'une part l'émergence d'une majorité claire et offre l'occasion d'autre part aux formations politiques de moindre envergure d'exister sur les bancs de l'Assemblée.
Cette meilleure visibilité des petits partis est soutenue par un autre projet qui laisse à espérer que l'effort vers plus de représentativité n'est pas que chimère.
Le texte final défend en effet l'idée d'un assouplissement des règles de remboursement des frais électoraux et des campagnes électorales des partis secondaires, propre à leur assurer une existence dans les compétitions électorales par un accès facilité aux médias.
L'idée d'équilibre au sein du scrutin se retrouve enfin dans la révision du mode d'élection des sénateurs, en suggérant que soit renforcé le poids des collectivités en fonction de leur démographie. Maintenant ainsi, certes une surreprésentation des communes, mais la ramenant à des proportions moins caricaturales qu'aujourd'hui.
Au-delà de l'opinion citoyenne singulière, c'est donc la France dans sa diversité, tant celle des communes, des départements et des régions, que la Commission a cherché à propulser. Seulement, certains politiques se passeraient bien d'une nouvelle représentativité, préférant l'éternelle continuité.
Les réactions de l'opposition se cristallisent justement, Marie-Ève, sur la révision du mode de scrutin pour les élections sénatoriales. Elles représentent, pour eux, une stratégie électorale de la part de la gauche.
En favorisant la voix des régions par la modification du scrutin, la gauche baliserait son chemin pour les prochaines élections de 2014. Mais ce qu'il déplore surtout, c'est la rupture que ce nouveau scrutin risquerait d'entraîner avec la France rurale, cette France de la périphérie qui serait trop oubliée à Paris.
Et cet argument de la rupture n'a pas que du succès à droite. Au PS aussi, on l'invoque.
Seulement Thomas, le présupposé n'est pas le même. Si François Rebsamen, maire de Dijon, ou Gérard Collomb, maire de Lyon, usent de cet argument, c'est par rapport au non-cumul des mandats. Selon eux, la double casquette permettrait un juste équilibre entre la sphère nationale et la sphère locale.
Des arguments qui se justifient quand on les considère à partir du rôle du député.
En effet, le parlementaire, afin de jouer pleinement son rôle de représentation nationale, doit connaître ce va-et-vient, parce qu'il représente la France dans sa globalité.
En revanche, Marie-Ève, l'argument apparaît moins pertinent si l'on se place du côté de l'élu local.
En effet, le mandat local est souvent utilisé à des fins utilitaires, comme tremplin pour des ambitions nationales futures. Et cette ambition sous-jacente contribue très souvent à discréditer le politique. On le croit ici, à côté, mais il regarde ailleurs.
Alors oui, avec le non-cumul des mandats, les politiques ne pourront plus jouer de ce va-et-vient entre le centre et la périphérie. Mais si ce mouvement s'arrête pour que les élus se concentrent davantage sur leur rôle, ce sera le mouvement de confiance entre le citoyen et le politique qui pourra être relancé. Et c'est cela qui doit passer avant toute chose, des hommes politiques plus crédibles, parce que compétents, pour une République plus crédible.
Paul L'Éthique, un sujet préparé par Mathilde Ferrez. Et si on changeait d'échelle? Et si on prenait du recul? Et si on regardait à présent la politique européenne et la politique avec des yeux d'Européens?
Sur le sujet du cumul des mandats, un tel changement d'échelle est intéressant. Et d'ailleurs, le Sénat lui-même y a songé avant nous, puisqu'il a en effet publié en juillet 2012 une étude de législation comparée sur le cumul des mandats électoraux et des fonctions électives en France et dans 7 pays européens, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Angleterre et le Portugal.
Après avoir rappelé le régime en vigueur en France qui interdit le cumul de 2 mandats nationaux, le cumul entre l'un de ces mandats et celui de membre du Parlement européen, le cumul entre un mandat national et certains mandats locaux ou territoriaux, et enfin le cumul entre plusieurs mandats territoriaux, le rapport analyse les législations en Europe tout en soulignant la difficulté d'une telle comparaison, étant donné la diversité des organisations des pouvoirs publics.
La déclaration et la publication des cas de cumul permettent seuls de connaître l'étendue du phénomène. La proportion d'élus en situation de cumul ne dépasse pas 20% dans la plupart des pays européens, alors qu'en France, 84% des députés et 72% des sénateurs exerçaient au moins un autre mandat électif.
Dans le détail, on constate qu'en Allemagne, les cumuls sont limités, voire interdits dans certains Länder. Et seuls 24% des parlementaires cumulent avec un mandat local. En Espagne, seuls 20% des députés ont un mandat local et seuls 7% sont maires. En Italie, seuls 7% des parlementaires ont un mandat local. Et en Grande-Bretagne, enfin, le chiffre tombe à 3% pour les membres de la Chambre des communes.
Donc, la France s'impose dans le paysage européen comme un champion hors catégorie des cumulards.
Raisonner en européen permet ainsi de prendre un recul salutaire.
Parce que l'Union européenne, ce n'est pas que des technocrates bruxellois incompréhensibles ou une crise de la zone euro. Parce que l'Union européenne mérite mieux que l'image lointaine et souvent négative qu'en donnent la plupart des médias traditionnels. Jérôme Bastic vous présente régulièrement sa chronique. Vue d'Europe. Bonjour Jérôme.
Bonjour Thomas.
Alors tu as décidé également de t'intéresser à un rapport politique À croire que c'est la saison, tombent les feuilles et fleurissent les rapports en quelque sorte. Mais ce n'est pas au rapport Jospin que tu t'es intéressé, ni au rapport gallois dont nous parlions lors du dernier numéro du Grand Journal Politique, et qui a propulsé le mot « compétitivité » comme le mot de cette rentrée, à égalité cependant avec le mot « couac » qui l'eût cru. Vivement que les mots que nous retenions soient « croissance »,« emploi » et « solidarité », et avant que vous me taxiez de démagogie facile, laissez-moi vous dire qu'en cette approche de l'hiver, on peut bien rêver. Ou peut-être, vivement que le mot que nous retenions tous, jusqu'à la saturation, soit le mot « fédéralisme », qui sait, puisque dans un rapport qu'ils ont récemment signé et qui a eu beaucoup moins de visibilité médiatique, il faut le dire, que les deux que j'évoquais à l'instant, Daniel Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt, plaident pour une Europe fédérale, n'est-ce pas Jérôme ?
Tout à fait Thomas. Malgré en effet la pointure de ces deux signataires, c'est un texte qui aura finalement rencontré assez peu d'écho, dans la presse aussi bien que dans la classe politique. En France aussi bien que dans d'autres pays européens. Je veux parler du manifeste pour une révolution post-nationale en Europe, intitulé « Debout l'Europe » de Daniel Cohn-Bendit, co-président du groupe écologiste au Parlement européen, et de Guy Verhofstadt, président au même Parlement de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe et ancien Premier ministre de Belgique. Il faut dire que ce livre apparaît quelque part en décalage idéologique avec l'évolution actuelle des mentalités. Les discours protectionnistes et identitaires ont aujourd'hui le vent en poupe, comme souvent en temps de crise. Et jamais il n'y a eu aussi peu d'hommes politiques pro-européens depuis un demi-siècle. La grande question qui se pose aujourd'hui n'est pas, selon nos auteurs, de démondialiser, mais de peser de tout notre poids sur la démondialisation, qui est une réalité à prendre en compte, qu'on le veuille ou non. Il ne s'agit pas non plus de militer pour un grand soir fédéral, qui n'aura de toute façon pas lieu, mais d'enclencher un processus susceptible d'y mener. Nos auteurs partent d'un même constat. L'Europe est une ruche hétérogène, ce qui est une bonne chose, l'union ne supposant pas l'uniformité. Mais elle traverse une crise qu'ils n'hésitent pas à qualifier d'existentielle. Le projet européen n'a été soumis à une telle pression, ni aussi ouvertement remis en question. Une crise de l'Union européenne qui est due à celle de la zone euro. Cette crise était prévisible, allez lire, l'erreur capitale des inventeurs et fondateurs de l'euro étant de ne pas s'être entendu dès le départ sur les contraintes et les répartitions des charges et sur une politique économique et financière intégrée. La seconde cause est une crise de confiance. Crise de confiance entre États membres, déjà. Les grands pays de l'Union ayant publiquement affiché leur réticence à secourir les États membres en difficulté. Crise de confiance entre les citoyens de l'Europe et la politique européenne ensuite. Pour nos auteurs, nous sommes parvenus à un moment critique de l'histoire européenne. Il serait moins 5 pour l'Europe, selon leur expression, et nous serions aujourd'hui à la croisée des chemins, à l'heure du sursaut. L'Europe des nations est à leurs yeux une relique du passé, non un viatique pour l'avenir. Soit un État fédéral européen, une Europe politique post-nationale, voit le jour, soit la monnaie unique disparaîtra, ce qui signerait l'arrêt de mort de l'Union européenne. Il n'y a désormais plus de compromis possible entre la fondation des États-Unis d'Europe et l'émiettement national. Or, la première option est le seul moyen de faire face aux géants comme la Chine et les États-Unis, d'Amérique cette fois, ou aux puissances émergentes. S'agripper au concept suranné d'État-nation, c'est se tromper d'ennemi. Cohn-Bendit et Verhofstadt mettent le doigt sur le principal mensonge de la rhétorique nationaliste. Jamais les frontières des peuples et celles des États ne coïncident. Et encore moins aujourd'hui qu'hier. Le défaitisme est un piège. A contrario, il est impossible d'oblitérer le niveau de bien-être auquel, depuis 60 ans, la construction européenne nous a porté. Je les cite. « Songeons à ce que nous devons à l'Union européenne, pour prendre conscience de ce qui est en train de se jouer. Pour l'Europe, la première moitié du XXe siècle correspond aux 50 années les plus sanglantes de son histoire. Elle a été le théâtre de deux guerres mondiales. Au cours de cette période, l'Europe a accouché du fascisme, du nazisme et du communisme. Un trident démoniaque qui tenait tout le continent dans ses griffes et qui a failli faire périr notre civilisation. Quel contraste avec l'Europe pacifique, libre, prospère, sociale de la seconde moitié du siècle. Une Europe qui n'avait jamais connu une telle sécurité juridique. Cet âge d'or porte un nom, l'Union européenne. Il faudrait donc aujourd'hui passer à l'offensive. Le statu quo n'est plus une solution viable. il faudrait comprendre que seule l'Europe est en mesure d'apporter des solutions. Or, nos auteurs ne se cantonnent pas à un constat pessimiste, ils proposent des solutions d'envergure européenne. Ce qui frappe d'emblée le lecteur, c'est la diversité de nature de ces différentes propositions. Celles-ci peuvent être purement symboliques, mais on sait que le symbole a sa valeur et que, sans la fierté d'être européen, il n'y a pas d'avancée possible. Il s'agirait par exemple simplement de se souvenir des personnes qui ont bâti ou incarné l'Europe, de mettre leur nom et leur visage sur nos billets en euros, plutôt que ces chimères architecturales qui ne représentent même pas les trésors que nous pouvons trouver d'un bout à l'autre de ce vieux continent. D'oser penser européen. Être européen, écrivent-ils, c'est notre nom de famille, notre nationalité et notre prénom. Un européen a une passion pour sa ville, un attachement à sa région, un amour pour son pays, sans que ses ancrages n'altèrent pour autant sa profonde conviction européenne. D'autres solutions sont de nature institutionnelle. Créer une grande union fédérale avec des institutions européennes supranationales qui s'assument comme telles et soient habilitées à définir la politique de l'ensemble de la zone euro. Transformer la Commission européenne en un véritable gouvernement européen exécutif, encadré par un Parlement européen aux compétences renforcées, dont le droit d'initiative législative. Le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, n'étant plus capable d'assumer ce rôle, ce n'est plus que le syndicat des intérêts nationaux. Les auteurs proposent également que le président de la Commission soit élu directement par les citoyens, ou à minima par ce nouveau Parlement européen devenu Assemblée constituante. Pour cela, ils proposent qu'un nouveau projet de constitution européenne, plus bref, plus clair, soit proposé par référendum dans chaque État membre à la majorité des citoyens de chaque État et à la majorité des États membres de l'Union. Chaque citoyen pourrait ainsi s'exprimer en votant sur ce projet d'envergure européenne et les États qui l'auraient refusé ne seraient pas compris dans ce noyau fédéral européen. À condition, bien sûr, que ce ne soit pas l'Allemagne ou la France dont l'absence pourrait porter un coup fatal. Mais nos auteurs ne se leurrent pas et concèdent volontiers qu'il s'agirait seulement là du premier pas fondateur d'une autre politique, marquée par une troisième série de propositions ouvertement structurelles. La transformation du fonds d'urgence en véritable fonds monétaire européen, à l'image du fonds monétaire international, la création d'un trésor européen pouvant émettre des euro-obligations, une politique étrangère reposant sur une diplomatie et une armée européenne autonome, seul moyen de faire entendre une unisson et non la cacophonie actuelle, et enfin, à terme, la création d'un passeport européen et d'une citoyenneté européenne. Autant dire que nous sommes encore loin de tout cela. Mais c'est souvent dans les crises que sont nés les projets les plus fous, et des cendres encore chaudes de deux guerres sans merci que l'Union européenne a pu se construire. Alors, se manifeste, est-ce seulement deux voix de plus criant dans le désert? Ou bien la crise que nous traversons actuellement sera-t-elle l'occasion d'un second souffle pour l'Europe? Qui vivra, verra.
Merci Jérôme.
Vous le savez maintenant, nous accueillons à chaque numéro deux éditorialistes aux sensibilités différentes, voire radicalement opposées, pour que toutes les opinions s'expriment sans langue de bois.
Dans le précédent numéro, Caroline Bouchier et Louis Dubost s'exprimaient librement et sans concession, l'une sur la question du mariage pour tous, l'autre sur le regain d'antisémitisme en France. Nous accueillons aujourd'hui Thibaut Sardier, qui était déjà venu nous voir il y a un mois, rappelez-vous. Il avait signé un papier sur les conditions de travail des universités françaises, nous parlant de Madame F et de Madame V.
Cette semaine, nouvelle émission, nouveau sujet et place à l'éditorial de Thibaut.
Marie-Ève, Thomas, décidément, le débat sur l'union ouverte à tous n'en finit pas de déchaîner les passions politiques. L'Église, à travers le Conseil permanent des évêques de France, a parlé d'un projet inutile et dangereux. Nicolas Sarkozy a quant à lui marqué son opposition, tout en évitant de trop ringardiser la droite, en déclarant « Sur la famille, il faut que nous sachions nous ouvrir, sic, nous moderniser, nous actualiser », et il ajoute un peu plus loin « On peut aussi s'aimer en dehors du mariage ». Ce risque de ringardisation de la droite, Christine Boutin n'en a que faire lorsqu'elle clame « La droite a honte de ce qu'elle est, elle a perdu le sens de la générosité, de la tolérance, de l'écoute de l'autre, de la famille ». Du côté des défenseurs du projet, citons par exemple Roselyne Bachelot, seule contre tous à droite, qui a notamment rappelé le risque de perte de l'électorat sexuel, en particulier à Paris. Jean-Marc Ayrault s'est lui opposé à Jacques Chirac, peu après que celui-ci a manifesté son opposition au projet. Alors Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Jean-Marc Ayrault, tous ces propos ne datent pas d'hier, non. Ils remontent à 1999, lors d'un autre grand débat de société similaire, celui sur le PACS. On voit ainsi qu'entre aujourd'hui et il y a 15 ans, les termes du débat sont à peu près similaires, alors même que le PACS ne pose plus vraiment de problème à qui que ce soit. On peut sans doute l'expliquer par le fait que cette forme d'union, initialement conçue pour donner aux couples homosexuels une forme de reconnaissance civile, a été massivement réinvestie par les hétérosexuels, à tel point que le PACS est aujourd'hui largement devenu un rituel social pour la société tout entière, complètement distinct du mariage. Si le mariage gay, quant à lui, fait autant débat, c'est probablement parce qu'il constitue une démarche qui consiste à investir à la marge une institution élaborée sur le temps long par les hétérosexuels et pour les hétérosexuels. Il n'empêche, on aurait pu penser que l'expérience PACS, finalement acceptée sans heurts, aurait limité les conflits que l'on observe ces jours-ci à propos du mariage gay. On peut peut-être l'expliquer par la peur de la remise en cause de ce qui serait un fondement de notre société, la famille, et que sans elle, tout serait désorganisé en France. Mais est-on bien sûr que le modèle de la famille hétérosexuelle fertile soit à ce point un fondement de la société ? Des arguments aussi simplistes que l'accès au mariage de couples stériles ou que la parfaite intégration dans notre société de personnes célibataires ou sans famille permettent d'en douter. Alors je propose de chercher ailleurs le fondement de notre société, notamment pour trouver des motifs de clore cette conflictualité et de retrouver un vivre ensemble et de faire réellement société. Et je propose de le retrouver dans notre devise « liberté, égalité, fraternité ». Et à bien y regarder, le dernier mot « fraternité » est sans doute la condition de possibilité des deux autres, celui sur lequel il faut s'appuyer, alors même que c'est le mot le plus fragile, puisque la République de 1848 faillit lui préférer le terme de « travail ». Fraterniser, c'est considérer que son prochain peut devenir un frère, un ami, malgré ou plutôt grâce à ce qui le rend différent de nous. Fraterniser, c'est considérer que notre condition, nos habitudes, notre mode de pensée ne valent pas mieux que ceux d'un autre et c'est refuser de les leur imposer. Fraterniser, c'est donc considérer que la société repose sur la volonté de chacun de ses membres d'accepter les autres membres en les voyant comme des semblables, des êtres humains, avant de considérer ce qui nous en distingue. Ainsi, je pense que la question du mariage pour tous pourrait être perçue par une possibilité qui nous est donnée de faire l'exercice de notre capacité à nous ouvrir à l'autre, à l'accepter et à faire société tous ensemble, que nous soyons favorables ou défavorables à ce projet de mariage ouvert à tous. Pour finir avec un exemple personnel, le mien, j'ai grandi dans un milieu qu'on pourrait définir à grands traits comme blanc, catholique, français, hétérosexuel et de classe moyenne supérieure. Évidemment, l'éducation qui en résulte a fait de moi ce que je suis, et sans me vanter ni flatter mes géniteurs, le résultat aurait pu être pire. Mais je dois dire que je n'aurais jamais eu le cheminement qui est le mien si je n'avais pas rencontré des jaunes, des gris ou encore des noirs, des hétérosexuels, des bisexuels ou encore des homosexuels, des protestants, des juifs ou encore des musulmans, voire des gens qui sont un peu de tout cela et beaucoup d'autres choses, et à qui je dédie, Marie-Ève, Thomas, ce petit appel maladroit à la tolérance et à l'amour du prochain.
On passe maintenant à l'enquête de la semaine consacrée à la Fronde, qui agite depuis quelques semaines le Sénat, dont la voix porte sur la question du non-cumul des mandats et qui vient de retoquer deux textes présentés par le gouvernement et votés sans problème en première séance à l'Assemblée. Tout cela en l'espace d'une semaine et à la faveur d'un étonnant front UMP-PCF, une enquête réalisée par Colline Allier.
Jean de La Fontaine, dans Le Lièvre et la Tortue, employait l'expression « aller à un train de sénateur » pour parler évidemment de la tortue.
Pourtant, depuis quelques semaines, la tortue sénatoriale semble avoir mangé du lièvre, du lion même. On n'a en effet jamais autant parlé du Sénat, passé à gauche, première historique en septembre 2011, et qui devrait être en phase, donc, avec l'actuelle majorité gouvernementale, de gauche, elle aussi. En phase, en tous les cas, sur le papier, parce que ces derniers temps, le Sénat se rebelle.
Sénat, la révolte de la tortue, une enquête réalisée par Colline Allier. Bonjour Colline.
Bonjour.
Longtemps, les sénateurs se sont couchés de bonne heure.
Une façon, Marie-Ève, comme une autre, d'évoquer l'âge vénérable des membres de la Chambre haute et leur traditionnelle consensualité. Les amateurs de miettes, de madeleine, au fond du thé et d'orchidées apprécieront.
Bref, il est vrai que les sénateurs sont rarement, depuis leur institution par Napoléon Bonaparte en 1799, de farouches opposants du régime, choyés par le gouvernement auquel ils assurent la pérennité. Élus par des élus, dans un scrutin indirect dont les modalités favorisent les territoires ruraux, il représente un monde de privilèges qui peut paraître finalement assez loin du peuple.
On peut même dire, Colline, que dans l'histoire, ils ont franchement constitué un pouvoir réactionnaire.
Tout à fait, Thomas. Sans parler du Sénat conservateur du consulat, tout est dans le titre. On peut dire, en suivant Maurice Duvernier, qu'à travers toute la Troisième République, la responsabilité du Sénat a été, je cite, « écrasante dans l'immobilisme du régime ». Dans son décalage croissant avec les réalités modernes.
Néanmoins, depuis l'avènement de la Ve République, le Sénat est devenu plus démocratique, tout en gardant un mode de scrutin indirect.
Oui, mais le rapport inégalitaire du bicamérisme en faveur de l'Assemblée nationale fait que les sénateurs ne jouent plus qu'un rôle de penseurs, et n'ont plus qu'un pouvoir de réflexion aux côtés de l'Assemblée nationale. Malgré cela, les sénateurs conservent un poids politique important, jouissant de revenus confortables, de divers privilèges liés à leurs fonctions, et surtout, de la possibilité de cumuler leur mandat parlementaire avec un mandat exécutif local.
Pourtant, la tortue sénatoriale semble s'être réveillée de sa longue dormition pour faire entendre haut et fort sa voix.
Oui, et c'est d'abord à cause de cette possibilité de cumuler mandat parlementaire et mandat exécutif local. Possibilité qui existe d'ailleurs également pour les députés. Et donc, c'est pour ça que les sénateurs en ce moment se rebellent.
C'est aux alentours du 9 septembre dernier que le Sénat a fait fortement parler de lui à ce sujet. Le rapport Jospin, dont vous parliez en début d'émission avec le sujet préparé par Mathilde, et notamment la réforme sur le cumul des mandats relancée par François Hollande qui voudrait en faire un projet de loi pour le printemps 2013, a en effet subi une volée de bois vert à la Chambre haute.
Il faut dire que Lionel Jospin a toujours eu des difficultés avec le Sénat.
En 1998, il en parlait comme d'une anomalie démocratique. Et en 2000, il avait fait voter une loi pour limiter le cumul à deux mandats. Tandis qu'avant, les sénateurs pouvaient se livrer sans limite à cette pratique qui renforçait, notamment à l'échelle locale, la notabilisation du personnel politique et pouvait engendrer des phénomènes de clientélisme, voire de corruption.
Et en 2012, Lionel Jospin semble toujours avoir des problèmes avec le Sénat, à propos donc cette fois de son rapport et toujours de cette question du cumul des mandats.
En effet, même l'initiateur de la loi de 2000 que j'évoquais à l'instant, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Pierre Chevènement, se déclare aujourd'hui pour le cumul qu'il considère comme une articulation nécessaire entre le territoire français et le pouvoir parlementaire. Dans la même veine, Gérard Longuet, le sénateur UMP de la Meuse, estime que nous avons besoin de parlementaires qui aient un ancrage sur le terrain, faute de quoi ils deviennent en quelque sorte employés d'un parti politique.
Pourtant, on colline le Sénat, majoritairement de gauche, depuis son passage historique, on l'a dit tout à l'heure, en septembre 2011, ne devrait pas poser de difficultés à un engagement de campagne de François Hollande, président de gauche.
Certes, Thomas. Mais en dehors du président PS du Sénat, Jean-Pierre Bel, qui a fait part de son adhésion au projet présidentiel, la plupart des sénateurs, tous bords confondus, se sont élevés contre cette proposition. En effet, près de 75% des sénateurs occupent une fonction exécutive en plus de leur mandat parlementaire. Ainsi, même si le Sénat est à gauche, la majorité ne voudra pas mettre fin au cumul des mandats.
Il s'agit donc là d'une question qui dépasserait le clivage gauche-droite ?
Oui, Thomas, ce n'est pas l'homme ou la femme de droite qui s'oppose à une proposition de gauche, ni la femme ou l'homme de gauche qui se rebelle contre une proposition de son propre camp, mais des sénateurs qui défendent leur statut, leurs droits, leur corps.
Le Sénat s'oppose, le Sénat se rebelle, mais pas seulement pour se défendre et protéger ses droits. Plus étonnant que cette révolte quasi-corporatiste des sénateurs contre le non-cumul des mandats, les membres de la Chambre haute, majoritairement de gauche, donc je le rappelle, marquent en effet leur opposition à des projets de loi du gouvernement qu'en majorité, ils sont censés soutenir, et ce sur des sujets de politique générale ou de société.
Pour bien comprendre, il faut revenir sur cette fameuse majorité de gauche au Sénat.
Eh bien Thomas, la majorité présidentielle au Sénat tient à un fil, ou plutôt à 6. 6 voix d'avance, voilà donc la majorité de gauche au Sénat, majorité dans laquelle sont inclus les sénateurs socialistes, radicaux et écologistes, qui font partie de la majorité présidentielle actuelle, ainsi que les sénateurs communistes, PCF et Front de Gauche, qui n'en font pas partie, même s'il leur arrive fréquemment de voter les mêmes textes que la majorité et de rejoindre sur de nombreux points le gouvernement.
En ce moment, en tous les cas, on ne peut pas dire que les sénateurs communistes soient un exemple d'allégeance au gouvernement.
Non, ils sont même accusés par Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, d'être, je cite, « maintenant clairement dans l'opposition ». On parle même d'une alliance avec l'UMP contre le pouvoir.
En effet, par deux fois, en moins d'une semaine, les sénateurs communistes ont fait rejeter des textes présentés par le gouvernement et votés sans problème à l'Assemblée.
La loi Brotte, en premier lieu, portant sur la tarification progressive de l'énergie, a reçu une motion d'irrecevabilité de la part des sénateurs communistes qui considèrent que des familles avec des difficultés financières ne pouvaient pas forcément revoir l'isolation de leur maison. Cette mesure les pénaliserait donc.
Je regrette que des élus de gauche, du groupe communiste, aient pu être instrumentalisés par la droite pour bloquer un texte de justice sociale et d'efficacité écologique, a déclaré la ministre de l'écologie, Delphine Batho, à l'issue du vote.
Pourtant, ce n'est a priori pas pour les mêmes raisons que l'UMP et les communistes ont voté contre cette mesure, même si tous estiment qu'elle est précipitée et inconsidérée.
Et ce n'est certainement pas non plus pour les mêmes raisons que sénateurs UMP et sénateurs PCF ont uni leurs voix pour rejeter la réforme du plan budgétaire 2012-2017.
En effet, les sénateurs communistes estiment au contraire que c'est l'UMP qui ne vote pas à sa place une réforme valorisant l'austérité. Austérité tant décriée par les partis d'extrême-gauche, non par l'UMP. Nous ne sommes pas dans l'opposition, nous sommes à gauche, et nous voulons que la gauche réussisse. Or, aujourd'hui, cette loi de programmation nous inscrit dans une politique d'austérité qui va nous mener à la récession, a fait valoir Marie-Georges Buffet. Dans l'opposition, oui. Alliance et coalition avec l'UMP, jamais de la vie.
Oui, Colline, mais le constat reste le même. On assiste au Sénat à un étrange front d'opposition UMP-PCF.
Certes, mais même si une opposition existe réellement face aux projets gouvernementaux, on ne peut pas dire qu'elle est issue d'un accord tacite entre les communistes et la droite. Michel Sapin a analysé cette situation comme étant une preuve de la majorité instable du Sénat. D'ailleurs, malgré tout ce tapage médiatique sur le Sénat, quelques-uns comme Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, dédramatisent la situation et rappellent son rôle secondaire dans le gouvernement. Je cite « Ce n'est pas un incident politique grave, parce que l'Assemblée nationale aura le dernier mot. » En effet, l'Assemblée nationale possède d'une part une plus grande majorité socialiste, et de l'autre a le dernier mot, constitutionnellement, même en cas de relecture d'un texte et de rejet du Sénat.
Bref, définitivement, il n'y a que dans les fables de La Fontaine que la tortue l'emporte sur le lièvre.
Sénat, la révolte de la tortue, une enquête réalisée par Colline Allier. Sans langue de bois, c'est le choix d'entendre s'exprimer toutes les opinions politiques. Place donc maintenant au deuxième éditorial de l'émission et à la plume d'Amos.
Bonjour Amos.
Bonjour Thomas.
Alors, il y a quelques semaines, quand tu étais venu nous voir, tu nous parlais du fantôme de Nicolas Sarkozy. Et là, c'est le fantôme d'un président de l'UMP dont tu vas nous parler, mais celui qui n'est pas encore élu.
6 mois. 6 mois qu'on attendait la fin de cette ténébreuse affaire d'héritage fantomatique. La France n'en pouvait plus. Qui du jeune loup Copé ou du vieux dépressif Fillon reprendrait l'affaire du petit bonhomme? L'élection du président de l'UMP aurait dû redonner des couleurs aux partis de l'opposition. Ce qui devait être un grand exercice de démocratie aurait dû permettre à l'UMP, à l'instar de ce que fit le Parti socialiste à l'occasion de ses primaires citoyennes, de lancer le parti sur le glorieux chemin de la reconquête. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la droite française ne nous a pas déçus. Pendant ces 6 mois de campagne, l'UMP est allé au-delà de nos plus secrètes espérances. Alors que la France était dans un gouffre de dépression, alors que l'Europe n'en finissait pas de s'effondrer, le duel Fillon-Copé a tenu toutes ses promesses. C'est que pour incarner l'opposition, les gloires politiques de l'UMP ont sorti le grand jeu. Dans un premier temps, François et Jean-François, nos deux hommes blancs de la vieille génération, la droite se renouvelle si bien, se sont évertués à étouffer toute forme de concurrence interne au sein de leur parti. Les bonnes volontés ne manquaient pourtant pas. De Nathalie Kosciusko-Morizet à Bruno Le Maire, la jeune garde caressait en effet le rêve de se présenter devant les adhérents du parti de l'opposition. Mais ce fut niet. L'alliance objective de l'ancien Premier ministre et du secrétaire général de l'UMP mit tout en œuvre pour bloquer la moindre tentative de rajeunissement. Ce serait donc le grand et majestueux duel Copé-Fillon, au détriment du bon sens et, déjà, au détriment de la démocratie. Puis vint cette étrange non-campagne sur fond de deuil impossible du sarkozisme. Copé avalait des pains aux chocolats imaginaires pendant que François Fillon se cassait la jambe en faisant du scooter à Capri avec le patron de Ferrari. Aurait-on la droite la plus bête du monde qu'on ne se serait pas étonné? Le summum de la grâce fut atteint dans la nuit de dimanche à lundi. En cette fabuleuse soirée électorale qui n'aurait pas déplu à nos ancêtres surréalistes, on aura tour à tour vu Jean-François Copé, puis François Fillon revendiquer leur victoire. On aura vu Rachida Dati en appeler le plus sérieusement du monde à la décence, ce qui a dû plaire à un certain Dominique de Seigne. Jean-François Copé évoquait non moins sérieusement l'écriture de ses mémoires. Les mémoires de Jean-François Copé, il n'a pas encore dit en combien de tomes. Mais quand le général est dans les environs, Jean-François Copé a toujours un mot à dire. Quant à Marc-Philippe Daubresse, l'ancien ministre et soutien de Jean-François Copé, il a lui fini par s'enflammer en parfait ukrainien. Oui, oui, l'ukrainien, langue qu'il semble maîtriser parfaitement, signe que l'UMP est pleine de ressources cachées. Cette soirée électorale fantastique, soyons honnêtes, ne fut pas sans rappeler le congrès de Reims qui avait vu les harpies socialistes Royal et Aubry s'autodétruire. Mais à l'UMP, il y avait comme un charme, quelque chose de différent. Ce fut tout d'abord le maire de Meaux qui prit la parole, plus fier que jamais, exaspérant comme toujours, tel un petit enfant trop pressé, le regard de l'homme trop sûr de lui, prêt à tout pour satisfaire son ambition. Il demandait avec l'élégance qu'on lui connaît à François Fillon de reconnaître sa défaite. Quant à l'ancien Premier ministre, il prétendait avoir 229 voix d'avance, jurant qu'on ne lui volerait pas sa victoire honnêtement acquise. Évidemment, les soupçons de fraude ne manquèrent pas, les accusations de bourrage d'urne résonnèrent de chaque côté. Bref, tant que cette droite-là continuera d'exister, qu'on ne se permette pas de donner des leçons de démocratie au vaste monde. Dimanche soir, on a eu affaire au pathétique spectacle d'un parti qui se prêtait pour la première fois, et oui, mieux vaut tard que jamais, me direz-vous, au jeu de la démocratie. Doit-on rappeler que Nicolas Sarkozy s'était auto-proclamé candidat de l'UMP en 2007 comme en 2012? Entre Copé et Fillon, le duel des égaux a tourné au vaudeville politique, et les quelques sages de l'UMP qui ont refusé de s'engager dans cette bataille picrocolline en sortent grandis. Qu'on pense à Alain Juppé pour le monde d'hier ou à Bruno Le Maire pour les lendemains qui chantent. Lundi matin, nous nous sommes donc réveillés avec deux vainqueurs à l'UMP. Et finalement, qu'importe qui de Copé ou Fillon finira la semaine dans le fauteuil du président de l'UMP, le mal est fait. Car en dernière analyse, Jean-François Copé et François Fillon sont bien les deux grands perdants de cette élection. Les vainqueurs ne sont pas deux, ils sont au moins trois. Jean-Louis Borloo, Marine Le Pen et le fantôme Nicolas Sarkozy. Tout d'abord, Jean-Louis Borloo et Marine Le Pen. On peut en effet penser que cette crise à l'UMP va directement bénéficier aux deux autres partis de la droite, partis qui, contrairement à l'UMP, sont dirigés par de fortes personnalités politiques bien identifiées et ne souffrant d'aucune contestation. Le minable spectacle proposé par l'UMP dans le cadre de son élection interne peut potentiellement entraîner une fuite des militants du parti hier majoritaire vers ces deux pôles de la droite, les plus proches de Jean-François Copé tendant vers le sombre bleu marine, tandis que les partisans de François Fillon pourraient se rapprocher de la nouvelle Union des démocrates et indépendants, fondée par Jean-Louis Borloo. Si du résultat final à l'UMP dépendra la nature de ce mouvement de troupes, le plus important demeure la division fondamentale de l'UMP entre deux lignes bien distinctes et a priori irréconciliables, entre la droite de la dérive extrémiste prônée par Jean-François Copé et la droite du prudent recentrage voulu par François Fillon. Marine Le Pen et Jean-Louis Borloo peuvent ainsi objectivement profiter de cette crise au sein d'une UMP qui semble avoir perdu toute capacité d'union. Mais il est une troisième personne qui peut s'estimer gagnante après cette élection. Un homme politique qui, quelle chance, n'a plus besoin de parler pour faire parler de lui. Qui incarnait à lui tout seul l'union de la droite française, Nicolas Sarkozy, face auquel François Fillon comme Jean-François Copé apparaissent bien pâles. Ni l'un ni l'autre n'ont en effet su incarner avec évidence la relève. Faute de successeur, Nicolas Sarkozy apparaît donc bien comme le champion paradoxal, l'éternel patron d'un parti qui ne sait pas où aller, mais justement, faute d'avoir réussi à dépasser le logiciel sarkozyste, ce même logiciel qui l'a mené à la défaite il y a 6 mois. Bref, que ce soit avec Copé, avec Fillon, avec Sarkozy, l'UMP est en cette fin d'année 2012 au fin fond du trou. Finalement, bien au chaud, devant sa cheminée du palais de l'Élysée, dorlotée par Valérie, dialoguant avec Barack et Angela, en attendant un prochain voyage au long cours, c'est François Hollande qui doit bien sourire.
Merci Amos.
Et on termine comme à notre habitude sur une note plus légère.
Lors du dernier numéro, nous vous parlions de Godemiché écologiste. Cette semaine, nous repassons au-dessus de la ceinture pour vous parler de cravate.
Mais pas de n'importe quelle cravate, celle de François Hollande.
Balzac disait « La cravate, c'est l'homme. C'est par elle que l'homme se révèle et se manifeste. Pour connaître un homme, il suffit de jeter un coup d'œil sur cette partie de lui-même qui unit la tête à la poitrine. » Et de continuer apparemment très inspiré par la question des cravates. Une cravate bien mise, c'est un de ces traits de génie qui se sentent, s'admirent, mais ne s'analysent ni ne s'enseignent.
Et justement, c'est là que le bât blesse. La cravate de François Hollande est souvent mal mise lors de ses sorties en public et de ses réunions officielles et autres sommets.
Tantôt à droite, tantôt à gauche, ou bien centrée, la position de la cravate de François Hollande fascine, si bien que lors de sa grande et première conférence de presse du mardi 13 novembre, il s'agissait d'un des sujets qui animait le plus les réseaux sociaux. Il est à peu près 17h dans la salle des fêtes de l'Élysée. Le mardi 13 novembre, François Hollande rentre et porte une cravate bleu roi qui penchait légèrement vers sa droite. Un détail qui n'a pas échappé à de nombreux tweetos qui ont conseillé au président de fixer sa cravate avec une épingle à nourrice, oui, une pince ou de faire son nœud correctement.
Certains, comme DannyDan97, l'invitaient même à, je cite, « mettre un nœud papillon », alors que certains voyaient dans la position de sa cravate penchée vers la droite un signe de, je cite à nouveau, « l'infléchissement de sa politique ». Si, si, rien que ça.
Ceux qui ont parié que la cravate de Hollande serait de travers ont gagné, a écrit sur Twitter la journaliste du Figaro, Judith Weintraub. Et oui, plus palpitant que le PMU, parier sur la cravate de François Hollande. La semaine dernière, un Français a gagné environ 170 millions d'euros à l'euro-million, ça fait rêver. Pour la kermesse Chips Cubi, qui remplacera Austérité Oblige, la traditionnelle Garden Party, l'Elysée organisera en juillet un grand jeu concours pour deviner au centième de degré près l'angle d'inclinaison de la cravate du président. À gagner, une diminution de votre CSG ou de votre tranche d'imposition. Non, faut pas rêver. Au mieux, peut-être un badge Génération Mitterrand, mais pas sûr qu'il leur en reste.
On en blague, mais certaines personnes prennent le sujet de l'orientation de la cravate de François Hollande vraiment très au sérieux. En pointe, le site internet créé en août 2012 par un jeune étudiant, François Ta Cravate. Pour ceux qui voudraient aller consulter le site, www.françois-tacravate.fr. Ce jeune étudiant donc dit répertorier le nombre de fois où la cravate du président était penchée à chacune de ses sorties officielles. Je cite « Je suis la cravate de François et j'ai été portée 144 fois de travers pour 247 apparitions publiques », indiquait mardi soir la page d'accueil du site. Graphiques et camembert, miam, ça commence à devenir intéressant, à l'appui.
Espèce de ventre. Alors, moins extrême que cet étudiant, et je vous jure que c'est vrai, en mai dernier, lors de la cérémonie d'investiture de François Hollande, une des premières choses que ma mère m'a dites au téléphone, c'est « Tu as vu, il avait encore sa cravate de travers. Valérie Trierweiler ne doit pas savoir bien faire les nœuds. »
Bon, en tout cas, moi, sans avoir téléphoné à ma mère, je peux dire que ce n'est pas la première fois que la cravate de François Hollande fait parler d'elle. En mai, Barack Obama avait fait remarquer au président français qu'il avait le droit d'enlever sa cravate, lui qui était le seul dirigeant à porter cet accessoire en arrivant au sommet du G8 à Camp David.
Est-ce qu'on vient vraiment de parler de cravate pendant 5 minutes?
Plus même.
Peu importe mon âme, l'important est que ma cravate ne soit pas de travers. James Joyce.
Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission.
Merci à Xavier et à Antoine à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire. Merci également à Mathilde, qui n'était pas en studio avec nous, mais qu'on embrasse. À Colline et Jérôme aussi, qu'on embrasse mieux en vrai, puisqu'ils sont en studio.
Merci
donc à vous trois, puisque vous nous avez aidés à préparer cette émission.
Merci enfin à nos deux éditorialistes de la semaine, Thibaut et Amos, et eux, on ne les embrasse pas, parce qu'un éditorialiste, ça se respecte, et ça ne se commet pas dans de telles familiarités.
Au fond, c'est parce que tu les aimes pas. Non, mais tu peux le dire, de toute façon, ils écoutent jamais l'émission une fois qu'ils ont enregistré leur billet.
Je vais m'arranger avec eux en antenne, c'est bon. Amos et Thibaut, par contre, je les interpelle en direct, pourront laisser un commentaire pour prouver qu'ils nous écoutent. Et ils pourront également écouter sur les ondes de Transistor, ainsi que vous cette semaine, la toute nouvelle émission littéraire de la grille, L'Ogrilogie. Vous aimez jouer avec les mots et la littérature, vous aimez les papous dans la tête, vous aimerez L'Ogrilogie.
N'oubliez pas non plus d'aller du côté de la page En Plus. Vous retrouverez les meilleurs sujets de l'émission en version écrite et originale.
Nous vous laissons donc en bonne compagnie et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième numéro de Sans langue de bois, Paroles de militants. Tatiana Fauconnet parlera d'Europe entourée de militants PS, UMP, Europe Écologie Les Verts et FN.
D'ici là, on ne change pas les bonnes habitudes. Surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.